23 février 1917, plusieurs femmes manifestent dans les rues de Petrograd en raison de la Journée internationale de la femme. Au fil des heures, la manifestation prend de l'ampleur et les femmes sont rejointes par des hommes. Trois jours plus tard, l'armée reçoit l'ordre de tirer sur la foule.
Wow, Émile, c'est pas supposé être drôle ton balado.
Ben t'as bien raison, excuse-moi, je vais recommencer ça. Alors bonjour à tous, chers amateurs d'histoire. Je me présente, Émile Labelle, et dans ce balado, nous parlerons Révolution russe. Ouais, peut-être que l'hymne national, c'était un peu too much. Mais bref, je vais commencer mon balado de la même manière qu'un prof plate d'histoire de secondaire 5 commencerait son cours. Je vais commencer par le contexte historique. Notre histoire commence en 1914, dans une Europe de tension. Presque toutes les puissances d'Europe font des pactes qui obligent les participants du pacte à aller aider ses alliés si jamais ceux-ci se font attaquer. Bref, pour vous faire l'image, imaginez le match canadien-nordique du vendredi saint 1984. Tout le monde sait que ça va mal finir. On sait juste pas quand.
Je t'avertis, si tu touches à mon petit frère, j'appelle toute ma famille éloignée pour te péter la gueule.
OK, ben si c'est comme ça, moi aussi je vais appeler ma famille pour te péter la gueule 1000 fois.
Maman!
Bref, tout le monde se fait des gros yeux. Jusqu'au jour, alors qu'ils étaient en voyage, un Autrichien et sa femme se font assassiner. La victime n'est pas n'importe qui. C'est François Ferdinand, le neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Puisque l'assassin était serbe, l'empereur accusa la Serbie. Parce que tout le monde sait qu'une personne représente un pays.
Je vous donne deux choix. Soit j'envoie ma police dans votre pays pour investiguer et du même coup prendre contrôle du territoire sans que vous vous en aperceviez. Ou alors, on part en guerre.
Maman!
Et c'est ainsi qu'une guerre qui causera la mort de 18,6 millions de militaires et civils débuta. Qui dit guerre, dit ressources. Qui dit ressources, dit usine. Qui dit usine, dit main-d'œuvre. Et à l'époque, qui dit main-d'œuvre, dit personne de la gente masculine. Mais là, on a un problème, parce que tous les hommes sont à la guerre dans les tranchées. Ils ne peuvent pas travailler.
Mais dis donc, où sont partis mes employés? Je vais devoir les remplacer, mais par qui donc? Je pourrais trouver un autre type de main-d'œuvre et les payer 3 fois moins cher, en plus de leur offrir des conditions exécrables. Je vais embaucher des femmes!
Après 3 ans de guerre pénible et de conditions de travail exécrables, les femmes sont tannées. C'est pour cette raison que le 23 février 1917, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Petrograd. En quelques heures, la rue se remplit avec d'autres hommes qui les rejoignent. Et les revendications deviennent de plus en plus politiques. Ils réclament la chute du tsar et l'instauration d'une démocratie. La révolution est en marche.
Monsieur le tsar, monsieur le tsar, le peuple se révolte, que devons-nous faire?
N'ayez crainte, mon cher. Moi, le tsar Nicolas II ne sera pas la dernière star de Russie. Allez voir l'armée pour leur dire de tirer sur les manifestants.
Ah, vous êtes un génie! Oyez! Oyez! Sous l'ordre du tsar, messieurs, vous allez tirer sur les manifestants!
En résumé, le tsar perd le contrôle de son armée. Et lorsque l'autorité d'un pays perd le contrôle de son armée, ce n'est jamais bon signe. C'est comme si un boxeur de MMA se faisait amputer les deux bras et les deux jambes et se transformait en homme tronc. Ouais, si vous avez ri à ça, vous êtes vraiment sans cœur. Bref, pris dans cette situation terrible pour un chef d'État, Nicolas II ne vit qu'une seule solution pour sauver sa peau.
Ah, mon frère! Maintenant que j'ai risqué ma vie, que dirais-tu que je te confie ma magnifique couronne?
Prendre une couronne qui mène à ma mort immédiate, es-tu malade?
En résumé, le 2 mars 1917, le tsar Nicolas II abdique et son frère refuse le trône. Le peuple sort vainqueur et instaure le gouvernement provisoire ainsi que le Soviet de Petrograd, qui est une assemblée d'ouvriers qui contrôle le gouvernement provisoire. Ceux-ci instaurent la liberté d'expression, abolissent la peine de mort et instaurent le suffrage universel. Le peuple russe est aussi joyeux qu'un enfant qui fait enfin tomber toute sa ligne de dominos. Mais le problème là-dedans, c'est que... il y a une fin à cette ligne de dominos-là.
Bonjour, vous avez bien rejoint le gouvernement provisoire. Veuillez laisser un message après la tonalité. Pip!
Yes, alors je me demandais quand est-ce que vous alliez augmenter les salaires, la réduction du temps de travail et un partage plus équitable des terres. Bref, moi, parce que c'est quand même mon cinquième message. Et là, je vous le dis, je vais descendre dans la rue.
L'été 1917, le peuple redescend dans la rue. Mais cette fois-ci, c'est dans l'ombre que se prépare la révolution. En effet, dans l'ombre des manifestations, deux hommes manigancent. Ces deux hommes sont Lénine, fondateur du parti bolchevique, et son acolyte Trotsky, nouveau président du Soviet de Petrograd. Leur objectif, se séparer du gouvernement provisoire.
Trotsky, j'ai une idée. On se sépare du gouvernement provisoire avec des fucking guns. Genre, une société sans classe où le plein pouvoir appartiendrait au peuple.
Bonne idée, Lénine. Et on instaure une dictature du prolétariat. Le pouvoir aux soviets!
Donc, dans la nuit du 25 octobre 1917, plusieurs partisans bolcheviques prennent d'assaut le palais d'hiver. Les coups de fusil, les coups d'épée, ça se bat jusqu'au sang. Ils se sacrifient pour le pays! Là, je veux pas péter votre bulle, mais c'est pas vraiment de même que ça s'est passé. En effet, ça a été un peu embelli par la propagande russe. Non, pas l'hymne national. Non, ça a été embelli par là, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont juste rentrés, ils leur ont donné. Il y a eu un coup de canon, mais ça a l'air qu'après, finalement, le coup de canon, c'était comme un accident, fait il n'a pas servi à grand-chose. Mais bref, Lénine devient au pouvoir, il devient un héros national, et c'est ainsi qu'en 1922, l'URSS est créée. Pour terminer mon balado, je tiens à rappeler que je ne suis pas historien. Alors, ce que j'ai dit peut parfois être faux. Je dis pas que tout ce que j'ai dit est faux, non, j'ai fait ça professionnel, j'ai essayé de trouver mes recherches, mais je ne vous conseille pas d'utiliser mon balado pour étudier pour un examen. Parce que, aussi, je résume beaucoup la Révolution russe. En vrai, la Révolution russe est un événement très complexe, beaucoup plus complexe que je l'ai expliqué. J'ai beaucoup résumé pour essayer de rendre ça le plus agréable possible et ne pas sonner comme un prof d'histoire de secondaire 5. Très plate. Alors, en parlant de prof d'histoire de secondaire 5, j'aimerais avoir un remerciement pour M. Pelchot qui m'a passé ses notes de recherche pour ses notes de cours de classe pour m'aider à faire mon balado et à toutes les personnes qui ont participé aux voix. Alors, on se voit dans le prochain épisode. C'était Émile Labelle aux Comédies Histoire.